L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous, j'ai l'honneur de recevoir encore Madame Christine Cafando, que nous avons déjà reçue, et cette fois pour aborder son ONG Au-delà du Burkina. Christine, est-ce que tu veux bien te présenter à nouveau aux auditeurs de FM+.
Bonjour Jérémy, je m'appelle Christine Cafando et je viens du Burkina Faso.
D'accord. La dernière fois qu'on s'est vu, tu as parlé de ton ONG qui a pour nom Espoir, me semble-t-il, Espoir pour demain. Et cette ONG, elle a, me semble-t-il, un rayonnement au-delà des frontières du Burkina.
Ouais.
Est-ce que tu peux parler de ça un tout petit peu?
Oui, et il faut dire que l'association Espoir pour demain est d'abord à Bobo Dioulasso, mais ma personne, Christine Cafando, à l'international, je ne parle pas que de l'association Espoir pour demain. Mmh. Je parle de façon générale des personnes vivant avec la maladie. Et donc, du coup, je me présente, Christine Cafando, présidente de l'association Espoir pour demain, mais je parle pour le compte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Mmh.
Et le plaidoyer ne doit pas se limiter seulement au Burkina Faso, elle doit être au profit de tout notre continent, en fait.
Mmh.
Et mon travail à l'international, justement, c'est le plaidoyer. Et le plaidoyer qui consiste à attirer le regard des partenaires techniques et financiers vers l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où la prévalence est très élevée par rapport à d'autres continents. Et également, les programmes que nous mettons en place à travers le Fonds mondial, à travers des programmes américains ou français. Et il faut qu'ils sachent qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a encore des besoins et il y a des personnes capables de pouvoir mettre en place, de dérouler des programmes de prévention, de sensibilisation. Parce que quelquefois, il faut aller expliquer aux partenaires la réalité du terrain. C'est vrai, les papiers, les écrits, tout et tout, mais souvent, c'est quand on est présent, on dit les choses, que les gens ont plus confiance en ce que nous faisons sur le terrain. Et ma mission à l'international, c'est, comme je l'ai dit, c'est le plaidoyer et c'est de mobiliser des ressources pour le compte des laissés pour compte particulièrement.
D'accord. Et au niveau de ce plaidoyer-là, est-ce que vous avez pu avoir des partenaires et lesquels et dans quelle mesure ils vous aident?
Oui, au niveau de ce plaidoyer, il faut dire que il n'y a pas longtemps, j'ai porté un plaidoyer sur la prise en charge du VIH pédiatrique, où il y avait tous les partenaires internationaux, l'OMS, le Fonds mondial, l'UNICEF et les présidents africains hein, de la sous-région, je dirais, Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce plaidoyer a consisté à attirer le regard des personnes sur la question des enfants infectés. Parce que depuis plus de 40 ans, on a travaillé à soigner les adultes et les enfants ont été laissés pour compte. C'était le parent pauvre de la lutte. Mmh. Et là, maintenant, il fallait toucher du doigt le problème et attirer leur attention sur ça. Parce que j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, les gens avançaient, ils avançaient tête baissée sans regarder les enfants. Mmh. Et là, ça a été un déclic et ça a permis quand même au pays de mettre en place des programmes spécifiques dédiés aux enfants infectés et à l'international. Aussi, tous les partenaires se mobilisent autour de la question du VIH pédiatrique. Et le Burkina en profite, la Côte d'Ivoire en profite, le Tchad, bientôt je vais y aller, et le Mali, en tout cas tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre bénéficient de ce plaidoyer que j'ai porté à Dakar devant toutes ces instances.
Donc ça veut dire que dans les différents pays que vous venez de citer, vous avez une représentation de votre ONG là-bas ou,
Non, on n'a pas de représentation. Mais on a des associations sœurs, des ONG sœurs qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes buts. Et donc, du coup, on ne peut pas aller faire à la place des autres. Donc, dans chaque pays, les communautés s'organisent pour apporter une réponse à la question du VIH pédiatrique ou à la question du VIH de façon générale. La tuberculose et le paludisme aussi. Et maintenant, avec la COVID, c'est les communautés se mobilisent autour de ça. Et on n'a pas besoin de mettre des représentations parce que chaque pays est capable de se mobiliser pour faire face à ces pandémies-là.
Donc là, vous voulez, en termes de... Dans la collaboration que vous avez avec les pays de la sous-région, vous n'avez pas de données statistiques, à moins que ça existe, pour voir est-ce que ça évolue mieux au Tchad ou au Mali par rapport au Burkina. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je n'ai pas de chiffres par pays. Mais je sais que quand on prend l'Afrique de l'Ouest et du Centre de façon globale, 7 enfants sur 10 n'ont pas accès au traitement. 7 enfants sur 10 n'ont pas accès au traitement. Et ça, c'est l'Afrique est à la traîne. L'Afrique est à la traîne par rapport à d'autres pays. Je parle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Hein, mais quand vous partez, par exemple, en Afrique de l'Est, là où les programmes ont été vraiment... fait pour la population et avec la population, ils sont plus en avance que nous et la prévalence a beaucoup chuté. Mais chez nous, les programmes restent en souffrance et voilà, parce que peut-être nos programmes n'étaient pas assez adaptés ou alors c'est les ressources qui ont fait défaut. Et là, en ce moment, on s'est dit qu'il faut réagir vite. Il faut réagir vite parce que c'est inadmissible qu'en 2024, on continue à avoir des enfants qui meurent du VIH-SIDA.
Mais du coup, ça fait quand même entre le paludisme d'un côté et le VIH pour les enfants, parce que selon les chiffres que nous avons quelquefois aussi, la mortalité infantile, est-ce que, vous voyez, c'est énorme.
Oui. Je dirais que l'Afrique porte vraiment un gros fardeau en ce qui concerne la santé. La santé en Afrique est très fragile et n'est pas assez au top pour pouvoir répondre à tous ses besoins. L'Afrique, je dirais, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, elle souffre quand même, elle peine. Parce que d'abord, on n'a pas pu vaincre le palu. Et le palu, c'est avant le VIH. Hein, voilà. Donc du coup, si jusqu'à présent, on parle du palu, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de lacunes. Et si on rajoute à cela la tuberculose, qu'on n'a pas encore pu éradiquer. Et le VIH est venu s'ajouter, même si elle existait avant qu'on ne connaissait pas, elle est venue s'ajouter. Et aujourd'hui, voici la COVID qui vient se greffer, sans compter la fièvre Ebola, tout ça qui vient se positionner dans un continent où les ressources sont très, très faibles, dans un continent où la population est pauvre, dans un continent où... pourtant, on peut s'en sortir, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Et je me dis que de toute façon, l'aide internationale ne s'arrêtera jamais, mais il va falloir réorienter et bien cibler les objectifs de nos actions pour pouvoir atteindre le but qu'on poursuit, notamment éradiquer ces maladies-là. Mais pour éradiquer tout ça, moi, je me dis qu'il faut peut-être... C'est déjà fait. Mais on doit pouvoir s'asseoir pour dire, mais il y a longtemps qu'on a adopté des stratégies qui ne marchent pas ou qui n'ont pas assez de succès. Bon, comment réfléchissons-nous pour essayer de mettre en place des stratégies qui marchent? C'est simple, de copier seulement le voisin, de copier l'Afrique de l'Est. Comment ils ont fait pour que ça marche? Comment ils ont fait pour baisser la prévalence? Comment ils ont fait pour que la communauté s'empare de la question de santé et va dans les recoins, au dernier kilomètre des villages pour apporter des informations et des soins à la communauté? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest et du Centre n'arriverait pas à là? Qu'est-ce qui se passe?
Et selon vous, c'est dû à quoi?
Ben, tout comme vous, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas au haut niveau, je ne suis pas dans les instances de décision, je ne suis pas dans les instances de là où on décide des choses, des stratégies. Mais je pense que si j'ai l'occasion d'être quelque part là-bas, mais j'allais poser la question et avoir la réponse.
Mais avec vos partenaires locaux, en tout cas, dans vos échanges, qu'est-ce qui apparaît selon vous?
Je n'ai pas compris la
question. Ce qui fait qu'en Afrique de l'Est, ça marche mieux en termes de prévalence par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Oui. Est-ce que vous avez des contacts avec vos associations sœurs là-bas? Et qu'est-ce qu'ils vous disent qui pourrait expliquer que là-bas, ça marche mieux que l'Afrique de l'Ouest?
Mais de toute façon, ce qui fait qu'on sait maintenant que ça marche mieux là-bas, c'est parce que justement, nous, les communautaires, on a mis en place des plateformes internationales. Et ces plateformes regroupent l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre et ainsi de suite. Et donc, les anglophones, les francophones, tous mélangés. Et on partage les expériences. On partage les expériences et on voit que dans ces pays, il y a pas mal de partenaires qui interviennent là-bas par rapport à chez nous, à notre zone.
C'est des partenaires extérieurs, vous voulez dire?
Extérieurs, oui. Okay. Européens, américains, voilà, tout ce que les grosses têtes, là, si vous voulez, comment je peux les appeler, je ne sais pas, les grosses têtes. Quand je prends la fondation Bill Gates, Elisabeth Glaser, PEPFAR, mais ils ont commencé d'abord dans ces pays-là et il y a eu du succès. Mmh. Bon, c'est vrai qu'ils arrivent, ils sont arrivés maintenant en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas faire un bilan pour dire que voilà, c'est au top. Étant donné que nous, déjà, on sait que la question, beaucoup de questions, beaucoup de thématiques sont en souffrance, notamment la transmission mère-enfant, la PTME et le VIH pédiatrique sont toujours en souffrance. Et alors que ailleurs, je dirais que c'est satisfaisant pour l'atteinte des 3,95 de l'ONU SIDA. Je dirais qu'au Burkina, on a peut-être 2,95 qui ne sont pas atteints. Et ça, c'est pareil dans la sous-région. Mais quand vous allez, par exemple, au Kenya ou au Zimbabwe ou autre, bon, ils sont proches vraiment des 3,95.
Mais est-ce que leur rapport, c'est les moyens financiers qui font la différence ou c'est autre chose?
Non, il y a les moyens financiers, oui, qui font la différence, mais également, il y a les stratégies que nous adoptons, qui ne sont pas adaptées à notre communauté, à notre façon de faire. Mais les moyens financiers sont le principal problème. Ce sont les principaux problèmes parce que sans moyens financiers, on ne peut pas... moi, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous savez ce que gagne un médiateur au Burkina Faso? Même pas 100 000 francs. En euros, ça fait 60 000 francs. 60 euros, pardon. 60 euros. Mais est-ce qu'avec 60 euros, tu peux faire un travail, aller au dernier kilomètre de ta communauté, sensibiliser, vivre avec, scolariser tes enfants, étant toi-même personne vivant avec le VIH? Comment tu t'en sors? C'est pas possible. Mais quand je regarde d'autres pays, je vois qu'il y a certains pays, notamment en Afrique de l'Est, mais ils en ont fait une carrière. Et ils sont à déclarer tout ça, à travailler. Mais quand on te paye à 50 000 ou à 60 000 francs, qu'est-ce que tu fais avec? Déjà ça, il n'y a pas la considération de la ressource humaine. Il n'y a pas la valorisation de l'acteur en tant que tel. Je parle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, hein, je ne parle pas seulement du Burkina. Les acteurs communautaires ne sont pas assez valorisés. Donc, il y a quelqu'un qui disait, et ça, j'aime pas le dire à l'antenne, mais je vais le dire quand même, petit argent, petit travail. Et ça, c'est pas bon. Mais nous, on n'attendait pas de l'argent avant d'être engagé. On a été engagé avant que l'argent ne vienne. Maintenant que l'argent est venu, il faut valoriser les acteurs et les permettre d'avoir une situation stable à long terme pour pouvoir toujours mener les activités. Quand vous prenez un médecin, un infirmier, mais il est là pour accompagner la communauté en matière de santé. Mais on va me dire qu'il a fait une formation. Mais nous, on a fait une formation aussi communautaire dans tout ça. Et c'est les mêmes prestations presque qu'on donne, sociales, communautaires, et eux, c'est médical. Donc, moi, je pense qu'on est complémentaires et il n'y a pas besoin de dire que vous, les acteurs communautaires, vous êtes anciens ou il faut laisser la place aux jeunes. Mais dites ça à un médecin, dites ça à un professeur. Il est vieux, il y a longtemps qu'il enseigne à l'université, il y a longtemps qu'il est dans le service, il a 63 ans, mais il est toujours là. C'est parce qu'il est toujours utile. Mais c'est pareil pour les acteurs communautaires. On ne partira pas tant qu'on n'a pas vu le bout du tunnel, comme j'ai dit. On ne partira pas tant qu'on n'a pas apporté ce qu'on doit apporter à la communauté. Et c'est aussi travailler à ça pour préparer la relève. La jeune génération qui vient et leur passer la main pour qu'ils puissent continuer le combat. Et ça aussi, il faut les valoriser parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne va pas venir faire du bénévolat comme nous, on l'a fait en son temps.
Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, les moyens financiers qu'apportent les fondations Bill Gates et autres, c'est pour d'abord mieux payer les acteurs sur place et ça fait en sorte qu'ils travaillent mieux. Voilà, ils peuvent aller au dernier kilomètre, comme tu dis, parce que s'il n'y a pas ces moyens financiers-là, ils ne peuvent pas atteindre le dernier village. D'accord?
C'est ça.
Maintenant, après, au-delà de cet aspect purement financier, en termes de ressources techniques, tout ce qu'il faudrait, imaginons que ça se limite dans une seule grande ville, ce qu'ils peuvent apporter, c'est à la fois des moyens purement techniques, des soins, des médicaments, enfin tout ce qui va avec. Voilà. Donc, comme les pays sont... Tu as parlé de la sous-région ouest-africaine, effectivement, c'est vaste, il y a beaucoup de pays. Il faut pouvoir avoir des véhicules pour y aller ou des mobilettes, payer l'essence, et que le gars il soit au moins formé pour pouvoir transmettre dans la langue locale, échanger avec les paysans, dire bon, voilà. Donc, c'est tout ça, en gros, qui fait que peut-être votre travail il peine un peu et que cette prévalence, malheureusement, quelquefois, elle monte.
Voilà, ça, c'est entre autres, oui, c'est ça, parce que je pense qu'il faut que nos pays adoptent la stratégie que moi j'appelle all-in, c'est-à-dire on est tous là-dedans, pour dire que ça ne, c'est pas une question du ministère de la Santé uniquement, ce n'est pas une question des associations, mais c'est une question pays. Dans chaque pays, on doit réfléchir pays. Et si on réfléchit pays, l'Afrique de l'Ouest et du Centre gagnerait à se mettre ensemble et trouver la même formule à moindre coût, pour atteindre ce que je disais. Quand je dis à moindre coût, par exemple, quand vous voyez, souvent tu fais un programme et dans ce programme, tout est activité. Mais quand tu mets les personnes ressources, certains partenaires refusent de prendre en compte les personnes ressources. Mais l'activité, elle ne se fait pas toute seule. Mettez 10 milliards dans une activité et mettez 0 francs dans personnes ressources. Mais l'activité, on va finir de bouffer les 10 milliards et on n'aura pas atteint l'objectif poursuivi. Donc si ici déjà, de toute façon, la valorisation humaine, c'est aussi une question de santé. Voilà, parce que ceux qui mènent le travail doivent être en bonne santé pour pouvoir aller toucher les autres. Une banque vide ne prête pas, ne prête jamais. Donc, du coup, si la banque elle n'est pas bien rembourrée, elle ne pourra rien faire. Bon, c'est pour illustrer un peu ma façon de...
Mais je comprends. Parce qu'en fait, au final, quand on regarde bien dans ces pays-là, c'est d'abord insister, parce qu'il faut plein d'acteurs, tous les ministères, comme tu as dit, de all-in. Donc, il faudrait que ces pays-là aient au moins un système de santé adéquat.
C'est ça. Il faut que ce pays ait un système de santé, je dirais, de taille. Je dirais, moi, je dirais de taille, parce que un système de santé défaillant ne va pas attirer non seulement les partenaires et elle va pas être crédible vis-à-vis des bailleurs qui viennent pour nous aider. Et de ce fait-là, mais moi, ça. Sur ce point, je tire quand même chapeau à certains pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, où les programmes de santé quand même essaient d'impliquer tout le monde autour de la question de santé. Et on essaie de voir quelle est la place et le rôle de chacun. Et les partenaires techniques et financiers sont assis et on discute de la faisabilité. Je peux vous dire même qu'aujourd'hui, même à l'heure où je suis en train de vous parler, en ce moment au Burkina, il y a un débat autour du CCM. Le CCM, c'est... la coordination nationale du Fonds mondial au niveau du pays, Country Coordination Monitoring. Et ce groupe de personnes au Burkina et qui est piloté par le ministère de la Santé est un groupe qui réfléchit justement à impliquer tout le monde sur la question de santé et qu'est-ce que chacun de nous peut apporter pour que la santé soit vraiment holistique. Et ça, moi, je pense que on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. C'est vrai qu'il y a des failles, mais c'est ensemble, en avançant, qu'on peut vraiment détecter ces failles-là et essayer de voir comment on peut s'y prendre pour pallier à tout ça. Et en tout cas, on est dans la bonne direction.
En tout cas, je vous le souhaite parce qu'effectivement... toute l'énergie que vous y mettez, il faudrait bien que, avant la fin de vos vies respectives, que vous voyez au moins le résultat de tout ce travail-là. Maintenant, après, on va peut-être passer à une page musicale. Et vous nous proposez le morceau, c'est
mais
lequel
j'aime bien Tracy Chapman.
Bon, alors,
Revolution.
On est parti pour la Revolution, Tracy Chapman.
Voilà.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run. talk about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution, oh no. Talk about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution.
Nous voici à nouveau avec Christine Cafondo sur FM+, après la révolution Chapman. J'espère qu'elle n'est pas destructrice, mais elle va être plutôt constructive, hein, qui va nous emmener vers l'extérieur, enfin le partenariat extérieur que Christine a déjà entamé avec les uns les autres. Comment vous allez vous y prendre pour améliorer en tout cas votre travail et votre collaboration avec ces partenaires extérieurs?
Je pense que dans la collaboration avec les partenaires, ce que nous souhaitons dans leur accompagnement, c'est de nous permettre d'être nous-mêmes, d'être autonomes. Quand je dis d'être autonomes, on ne veut pas toujours dépendre des partenaires. Mais comme je l'ai dit, il y a un système qui est là, qui est l'aide internationale. Tout le monde doit en profiter, tout le monde doit bénéficier. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'assume. Je parle de l'Afrique, de façon générale, qu'on s'assume et qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en termes de santé, en termes d'éducation, en termes économiques. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est pour ça que je vous ai dit que bientôt j'irai au Tchad. Et ça va représenter plusieurs pays. Et dans tous les pays, on essaie de voir dans quelle mesure on peut partager les expériences et prendre les bonnes les stratégies innovantes qui peuvent nous permettre d'être au même niveau d'information, les mêmes qualités de soins, les mêmes prestations de services, pour ne pas qu'il y ait encore des échappatoires, des fissures dans le système de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et là, le plaidoyer que nous portons aujourd'hui, c'est que le système international renforce les systèmes non seulement communautaires, mais aussi les systèmes de santé dans nos pays. Et là, c'est le combat que nous portons en ce moment. Si les systèmes sont bien renforcés, si dans nos hôpitaux, on a tout le plateau technique nécessaire, on n'a pas besoin d'évacuer des gens en Europe ici à coups de milliards. Et ça, vous allez voir que c'est les plus riches toujours qu'on évacue. Les plus pauvres qui sont là, qui ne peuvent même pas se payer un comprimé d'aspirine, c'est eux qui paient le plus lourd tribut. Donc, nous, notre objectif, c'est que la prise en charge médicale soit équitable. Soit équitable pour tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois équitable. Donc du coup, c'est le plaidoyer que nous portons aujourd'hui. Tout le monde a accès à la vie, tout le monde a droit à la vie, tout le monde a droit à la santé, aux soins de qualité. Il n'y a pas besoin de dire, toi, tu es une petite personne, tu n'as pas de revenus, tu es ceci, donc tu es sous-estimé et tu n'as pas les mêmes qualités de soins qu'un ministre ou sa famille. Pas normal. Voilà. La respiration, c'est Dieu qui la donne. La vie, c'est Dieu qui la donne. Pourquoi vous décidez de qui doit soigner? Dieu n'a pas décidé ça. Pourquoi vous, les humains, vous décidez ça? Donc, moi, mon combat, c'est celui-là. Combat, c'est l'injustice. Là, je ne suis pas là-dedans.
Bon. Dans votre combat que vous menez, votre noble combat, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si ça existe, de l'apport de ces tradis praticiens, s'ils ont essayé quelque chose, parce qu'après tout, il y a beaucoup de plantes qui peuvent soigner. Je ne dis pas qu'ils soignent le sida, mais est-ce qu'une réflexion est menée à ce niveau-là, parce que c'est un travail qui peut se faire de côté.
Oui, bien sûr.
Est-ce que cette démarche a été entreprise?
Au niveau du Burkina Faso, il y a une association des tradis praticiens à l'international, même au ministère de la Santé, carrément, ils ont carrément un programme pour les tradis praticiens. Et j'ai été marraine même de la 11e édition des journées des tradis thérapeutes au Burkina Faso. Et ils soignent beaucoup de pathologies. Mais en ce qui concerne le VIH-Sida, je reste réservée parce que je n'ai pas encore vu de guérison à travers les plantes. J'ai pas encore vu. Et scientifiquement prouvé, je n'en ai pas encore vu. Et moi-même, je ne peux pas faire la promotion du traitement traditionnel sur le VIH. Mmh. Voilà, parce que pour moi, c'est quand même délicat. Je connais des gens au début du VIH-Sida qui ont pris des produits traditionnels, qui se sont bousillés les reins, le foie, tout et tout, et qui en sont morts. Et moi, je ne ferai pas cette promotion. Mais ceci dit, il y a des pathologies qu'ils arrivent à soigner correctement. Mmh. Voilà. De toute façon, avant la médecine moderne, là, c'était la médecine traditionnelle. On nous soignait avec ça. Nos ancêtres, ils se sont soignés avec ça. Ils en ont vécu. Mais il faut que ça soit homologué. Il faut que ça soit contrôlé. Et d'où l'importance d'être au ministère et pouvoir être accompagné par le ministère, faire des recherches. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des molécules même qui sont sur le terrain, pas pour les ARV, hein, pour d'autres pathologies, la toux, des sirops à base de plantes qui sont sur le marché dans les pharmacies qu'on vend, et c'est efficace. Donc, je sais que ça peut marcher, mais il faut un accompagnement de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle pour aboutir. De toute façon, même les ARV qu'on prend, c'est peut-être à base de plantes. Mmh. Tout ce qu'on prend, c'est à base de plantes. Mais ces plantes-là, nos parents-là, nos ancêtres-là ont travaillé avec ça. Il suffit de les accompagner, de mettre en place les laboratoires qu'il faut pour leur permettre de développer ça. Et voilà, quand je dis on veut être économiquement autonome, mais tout ça rentre dedans.
Ouais.
Tout ça rentre dedans.
Mais peut-être que là aussi, ils auraient peut-être besoin d'aide, hein, parce qu'une seule plante, c'est un seul principe actif. Il faudrait peut-être croiser différents principes actifs pour aboutir à un médicament.
C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit. Ils ont besoin d'un accompagnement. Mm-hmm. Et comme j'ai dit au Burkina, je ne sais pas pour les autres pays, mais je pense que ça doit exister aussi. Mais au Burkina, le ministère de la Santé a carrément dédié... a carrément dédié un département à la médecine traditionnelle, et ils sont accompagnés. Et je sais qu'il y a de bons résultats.
D'accord.
Voilà.
Bon. Donc, il y a de l'espoir, on va dire, si les partenaires veulent bien s'impliquer. Donc, Christine, si on devait donner le mot de fin, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à l'association, d'une part, au Burkina, les différents partenariats avec d'autres pays et vos partenaires extérieurs?
Bon, avant le mot de fin, j'allais dire que dans l'association Espoir pour Demain, qui est basée à Bobo-Dioulasso, à travers justement le plaidoyer à l'international, on a pu construire un centre communautaire. Mm-hmm. Dans ce centre, nous avons une crèche d'une capacité de 10 lits. Nous avons un laboratoire, mais qui n'est pas encore équipé. Et nous avons également les consultations spécialisées pédiatriques, médecine générale, médecin généraliste, et une pharmacie. Et on prévoit en ce moment ouvrir une maternité. Voilà, la maternité, on est en voie de l'ouvrir parce qu'on a eu une partie de financement. Et ça, c'est communautaire. Ça, c'est le plaidoyer international qui a fait ça à travers le soutien d'une amie qui est en Belgique, et dont ses parents ont fait un leg. Et également la Fondation Roi Baudouin qui nous a soutenus à avoir ce bâtiment-là. Donc ça, c'est pour nous, c'est déjà un acquis. Je pense que tout le monde doit pouvoir faire ça. Et les ressources qu'on nous donne, qu'on utilise à bon escient. Il faut qu'on l'utilise pour la cause de ceux pour qui on va parler. Et si on arrive à faire ça, moi je pense qu'on peut faire bouger beaucoup de choses. Et l'autre aspect au niveau international, c'est que... je dirais que au niveau international, il va falloir mettre l'accent sur les pays où la prévalence est encore élevée. Et il faut pas, parce que j'entends souvent que pourquoi continuer à intervenir alors que le VIH les ARV, on a eu du succès. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire, particulièrement en Afrique. Parce qu'en Europe, on peut dire que ça va. On ne voit plus de transmission mère-enfant. Mais chez nous, on continue à en avoir. Et la question de l'homosexualité, c'est vraiment un problème chez nous. Ce n'est pas accepté. Donc tout ça, c'est des combats à mener. Il y a la question des adolescents et jeunes infectés. La santé sexuelle et reproductive de ces jeunes n'est pas assez développée. Donc il faut qu'on les accompagne pour que, comme j'ai dit dans une autre émission, il faut qu'on les accompagne pour leur laisser un héritage d'un monde sans sida.
En tout cas, merci sur ces mots. Merci Christine Cafando de votre passage ici à FM+. On est heureux de vous donner la parole pour que le combat que vous menez soit connu à l'international, d'une part, au Burkina, et puis que les partenaires potentiels qui nous écoutent puissent prêter une oreille attentive à vos projets. Donc merci, merci aux auditeurs, et puis à la prochaine émission. Merci. Bonne journée, ciao.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.